Rennes, j'écoute les voix du service public. C'est le podcast des archives de Rennes dans lequel nous vous proposons de découvrir des témoignages de celles et ceux qui font la ville.
Entre l'église Saint-Aubin et le bord de la station de métro, il y a un mètre. De ce mètre-là, d'un côté, vous avez l'église Saint-Aubin qui monte à peu près à 20 mètres. Et de l'autre côté de ce mètre, vous avez la station de métro qui descend à 30 mètres. Vous avez une différence de dénivelé là, sur un mètre de largeur de 50 mètres. Au niveau construction, ça a été quelque chose de difficile et les maîtres d'œuvre, quand ils ont fait ça, chapeau quand même, parce que c'était quand même compliqué.
Dans cet épisode à écouter le temps d'un trajet de métro de la ligne B, nous poursuivons la découverte du parcours de Noël Philippe. Ancien directeur général des services urbains à Rennes Métropole, en charge des déchets et des transports, il est depuis le mois de décembre 2020 à la retraite. Arrivé en 1996 au district, devenu ensuite métropole, il a accompagné le chantier du métro, du nouveau plan de transport et de la carte multiservice Corrigo. La ligne B, elle, a été une idée qui a commencé à germer très tôt, dès le milieu des années 90.
Dans l'enquête publique de 93-95, l'enquête publique de la ligne A, il y avait un projet de ligne B. Alors, donc ce projet de ligne B, il était Sainte-Anne-Beaulieu, c'est tout. Et puis, moi, quand je suis arrivé, on faisait la ligne A. Bon, l'objectif, c'était faire de la ligne A. Et puis après, bon, petit à petit, est quand même venu, bon, maintenant qu'on va faire la ligne B, comment on va faire? Et puis, il faudrait peut-être aller plutôt à Gare qu'à Sainte-Anne, etc. Donc, le sujet est venu tranquillement sur la table. Il y a des gens qui ont commencé à mettre des hypothèses, et puis finalement, en 2000, il a fini par en être question, 99-2000, il a fini par en être question au fameux comité de pilotage pour le métro ligne A. Donc des discussions dans ce cadre-là pour savoir comment on avançait. Donc il a été décidé dans ce cadre-là de lancer une première étude, donc, qui a été lancée en 2000, donc avant la mise en service de la ligne A. Pour savoir un peu quelle serait l'orientation d'une ligne B. Donc, sachant que pour faire une étude qui est lancée en 2000, il fallait quand même avoir un peu travaillé avant pour mettre à plat des données, etc. Donc, c'est un travail de méthode et d'acquisition de données préalables. Alors, l'objectif de cette première étude, c'était de déterminer un fuseau. Donc, nous, on avait donné un très grand fuseau qui faisait à peu près la moitié de la ville. Toute la partie de la ville qui n'était pas impactée par la ligne A, on avait mis tout le reste. Et donc, le bureau d'études devait nous proposer un fuseau et un mode.
Le fuseau est une bande assez large que l'on dessine sur une carte et qui permettra de définir le tracé par les études qui y seront menées. Quant au mode de transport, il s'agit du choix entre le métro ou le tramway.
Par contre, l'étude n'imposait pas de fuseau et n'imposait pas de mode. Et le bureau d'études qui a obtenu, après appel d'offres, qui a gagné cette étude, ça c'était le bureau d'études TTK, qui était un bureau d'études allemand, de Karlsruhe. Et Karlsruhe, en Allemagne, c'est la Mecque du tram-train. Donc c'était un bureau d'études qui, a priori, était très éloigné du métro. Donc, et c'est à eux qu'on a confié l'étude, en connaissance de cause. Et effectivement, on a travaillé avec ce bureau d'études pendant un an et demi à deux ans. Et à la fin, ils ont conclu le tramway n'est pas un mode adapté à la ville de Rennes. Donc, ils ont fait une préconisation de métro. En 2003, quand on avait les conclusions de l'étude, on voyait que le métro fonctionnait bien, donc c'était plus facile d'être pro-métro. Quand on l'a lancé au départ, honnêtement, on l'a fait de façon extrêmement honnête pour mettre toutes les choses sur la table, quoi.
C'est donc le choix du métro qui s'est imposé au détriment du tramway. Noël Philippe revient sur les raisons qui ont motivé cette décision suite aux conclusions de l'étude de 2003.
Quand on regarde l'étude, on a comparé 8 tracés métro à un tracé tramway. Alors pourquoi 8 métro et tramway? Ça veut dire que vous étiez pro-métro? Non, ça veut dire que tout simplement que le métro, le fait qu'il soit souterrain, qu'on pouvait choisir les points où on émergeait, on avait une marge dans l'optimisation du système. Le tramway, lui, quand on regardait, si on enlevait le fuseau de la ligne A, quand on regardait le reste, une fois qu'on additionnait les contraintes, etc., on avait un seul fil avec des perles. Hein, donc c'est parce que là, le fil, il est visible. Contrairement au métro, le fil est sous terre ou en aérien. Là, le fil est visible. Donc, il faut faire avec l'ensemble de ces contraintes. Et on n'a jamais réussi à faire plus d'un tracé. À l'époque, en 2003, quand on a fait le choix pour la ligne B, quand les élus ont décidé de retenir le fuseau et un métro automatique, on avait le résultat de la ligne A, où on était déjà quasiment à 100 000 voyageurs par jour, on avait dépassé les objectifs. Et ce que nous montraient les résultats de la ligne A, c'est que l'ensemble des modèles d'études de trafic, notamment ceux qui faisaient l'objet de l'étude dont on parlait là, sur la ligne B, tous ces modèles, ils ne fonctionnaient pas qu'un métro. Les modèles d'études de trafic n'étaient pas bons. C'est-à-dire qu'en fait, ils considéraient qu'un métro ou un tramway fonctionnaient de la même façon, qu'ils avaient la même attractivité par rapport aux distances, proximité, habitat, emploi, autour, etc. C'est comme si c'était un métro et un tramway, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on comparait. Et en fait, non, l'efficacité d'un métro, sa rapidité, son confort, sa fréquence font que ça n'est pas le même service. Non.
Faire une deuxième ligne de métro à Rennes, c'est choisir un tracé. Comment a-t-il été décidé ? Noël Philippe nous le raconte.
Alors là, c'est un processus qui a été très long, parce que autant la décision sur le fuseau et le mode, c'était juillet 2003, la décision sur le tracé proprement dit, avec les positions des stations, etc., c'est décembre 2007. Donc ça a été un travail long. Donc on a fait de mémoire 17 tracés ou 19, je ne sais plus exactement, enfin c'est l'un ou l'autre, 17 ou 19 tracés. Sur tous ces tracés, on a regardé comment on pouvait modifier le réseau de bus associé pour que les études de trafic soient les plus justes possibles. Et puis après, on a regardé si on pouvait couper la ligne en morceaux. C'est-à-dire que c'était quand même un gros morceau de faire une ligne entière. Donc est-ce qu'on peut la couper en morceaux et puis remettre à plus tard Où est-ce qu'on met en fonction des lignes qu'on propose, où est-ce qu'on met le garage atelier ? Est-ce qu'on fait un seul garage avec la ligne A, ce qui impose d'avoir le même matériel, ou est-ce que c'est différent ? Enfin, il y a des tas de questions qui se posent, et donc ça a pris du temps. Et puis il y avait aussi une question qui était très importante, c'est-à-dire que très vite, il a été assez évident que les deux points de correspondance possibles, c'était Sainte-Anne ou Gare. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit dans le centre-ville. Donc, sur la ligne A, il y a quatre stations de centre-ville. Il y a Sainte-Anne, il y a République, il y a Charles de Gaulle et il y a Gare. Donc, Charles de Gaulle, c'est un lieu qui est entre deux, donc il ne correspond à rien. Donc, certes, on avait de la place à cet endroit-là, mais ceci étant, la ville était en train de faire un parking. Donc, il fallait un peu qu'on oublie quand même, il n'y a plus de place. République, ça aurait pu être le cœur du réseau, parce qu'il y a déjà l'accès to S, on aurait pu avoir les deux lignes. Il s'était concentré sur un endroit, beaucoup de choses. Et puis, qu'est-ce qui se passait ? Comment fonctionnait le réseau de transport pendant les travaux ? Parce que ça veut dire que République était complètement bouché. Donc, et en même temps, ce n'était pas très favorable. Et puis après, il restait Sainte-Anne ou Gare, quoi. Donc, on a fait des études avec une option. Il n'y a que Sainte-Anne, il n'y a que Gare, et il y a les deux. Et puis après, pendant ce temps-là, le réseau il a fonctionné aussi. Et on s'est rendu compte que le réseau, le tronçon le plus chargé, c'était Sainte-Anne-Gare. Donc c'était là où il y avait le plus de monde. Parce que ceux qui viennent du nord, ils pénètrent de façon plus ou moins importante dans le centre-ville pour aller vers le sud. Et ceux du sud, pareil, donc le tronçon le plus... Ça paraît évident à dire comme ça, mais... Et c'était celui-là. Et à l'époque, on s'est... Puisqu'on connaissait quand même ce qui se passait ailleurs, et on a vu aussi que le... Sur Toulouse, ils étaient partis avec un point de connexion qui était un peu comme ça, comme si nous on avait pris Charles de Gaulle, quoi. Et en fait, il s'est avéré là-bas à Toulouse que le fait d'avoir pris un truc entre les deux, ça a complètement fait exploser le trafic sur la première ligne, parce qu'on cumulait énormément de trafic. Donc en fait, l'idée de faire une double correspondance est apparue relativement vite, parce qu'il y avait un intérêt quand même évident à Gare. Ça paraît évident de dire ça, mais il y avait quand même un gros intérêt à Gare. Et puis Sainte-Anne, quand même, ça évitait que toutes les liaisons entre les sites universitaires ne retraversent le centre-ville, quand même, quoi. Par contre, Sainte-Anne, il fallait vérifier qu'on puisse le faire, quoi. Peut-on faire une station à Sainte-Anne ? Donc la réponse a été oui. Donc en 2004-2005, on a eu la réponse oui. Et donc on a pris en compte cette réponse. Et donc après, on a mis toutes les opérations en route. Et en 2007, donc on a fait... avec tout l'ensemble des autres études, les morceaux de tracé, les études économiques, parce qu'on a aussi beaucoup travaillé avec nos services financiers pour savoir quel serait l'impact de tout ça sur les impôts locaux, parce que c'est pas rien quand même, une opération d'1 milliard à Rennes, c'est pas rien quand même. Et puis on a aussi regarder de très près quels seraient les coûts d'exploitation. Donc en fait, on a mis tout ça sur la table. Et en novembre 2007, on a fait l'ensemble des services de la métropole concernés, donc les finances, les urbanismes, les transports, un gros dossier de 200 pages en format A3 qu'on a remis aux élus, qui s'appelait un dossier d'aide à la décision, où ils avaient tout dedans. Je pense que il n'y a jamais eu un dossier aussi complet pour une prise de décision comme ça. Et les élus, le document leur a été présenté en novembre au Conseil, donc par Daniel Delaveau, qui était le vice-président transport de l'époque. Et puis, ils ont eu le dossier pendant un mois. Ils ont décidé le mois d'après. C'est la seule fois dans toute ma carrière à Métropole que j'ai vu une présentation d'une décision à un conseil et une décision le conseil d'après. Il fallait qu'ils prennent le temps de leur dire bah, vous avez eu le temps de voir les choses, donc là maintenant vous êtes capable de décider, enfin, vous devez décider. Et donc ça a été vraiment ces 4 ans-là, pour moi, ça a été la période la plus stressante parce que, une fois qu'on a décidé de faire le tracé, etc., bon, après on a des prestataires comme la SEMCAR.
SEMCAR, pour Société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, a reçu la mission par la collectivité de construire et de préparer l'exploitation de la future ligne de métro, la maîtrise d'ouvrage.
Il faut suivre les choses, pas dire que c'est un long fleuve tranquille, hein, je veux pas dire, mais les choses sont enclenchées, on est dans le faire, on n'est plus dans la question « faut-il faire ?». Dans la question « faut-il faire ?», bah, on est quand même beaucoup moins nombreux autour de la table et l'information qui remonte aux élus, bah, elle dépend quand même beaucoup des gens qui sont en responsabilité du projet. En l'occurrence, c'était moi qui étais en responsabilité globale du projet. Quoi. Donc c'est est-ce qu'on ne s'est pas gouré ? Est-ce qu'on n'a pas déconné ? Est-ce que sur les coûts d'exploitation, on est bon ? Est-ce que sur les impacts financiers, on est bon ? Est-ce que ceci ? C'est pas évident. Quoi. C'est là où il est très important de fonctionner en équipe, parce qu'on n'est pas, on peut être chef d'orchestre, mais on ne joue pas tous les instruments. Quoi. Mais tous les gens qui ont participé à cette période-là, je pense qu'ils en ont un bon souvenir, même si c'était dur, même si c'était le niveau de responsabilité qu'on avait était très très élevé, mais c'était quand même très 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 enthousiasmant.
Extrait du dossier d'aide à la décision du mois de septembre 2007 à propos de la structuration de la ville et de l'agglomération avec la dynamique métro. Les lignes de métro sont des axes structurants favorisant le développement des actions d'urbanisme et des opérations d'aménagement. À titre d'exemple, la ligne A de métro a permis de renforcer l'intégration de grands quartiers périphériques et de mieux les insérer dans le développement de la ville et de l'agglomération en améliorant leur desserte. L'échelle de temps change. Les distances perçues entre les quartiers et le centre-ville diminuent. De nouvelles mobilités sont ainsi rendues possibles. Le métro ne constitue pas seulement une infrastructure de transport, il s'agit d'un véritable outil de proximité et de structuration du territoire. Le corridor d'attractivité du métro est aussi le support de lieux de projet, de requalification d'espaces publics, de confortation ou de création de pôles de quartier avec de nouveaux équipements, services et commerces, de réalisations mixant les logements et les activités. La ligne B de métro, envisagée sur un axe sud-ouest-nord-est via le centre-ville, doit permettre de poursuivre les mêmes objectifs que la ligne A et ainsi combiner les déplacements et l'urbanisme afin de desservir un faisceau le plus large possible de population et d'activités, développer les pratiques d'intermodalité avec les parcs relais, les haltes et gares ferroviaires, réduire les espaces-temps entre les secteurs périurbains et la ville centrale, ainsi qu'entre les quartiers et le centre-ville, établir de multiples connexions avec le réseau métro-bus dans les quartiers et le centre-ville, développer ou valoriser des polarités de proximité autour des stations de métro, dynamiser les territoires ainsi desservis en accompagnant l'arrivée du métro, en particulier autour des stations, par des opérations de requalification urbaine ou de réalisation de nouveaux quartiers, la Courrouze, le Gast, les rives du Blône, les Champs Blancs, s'appuyer sur la dynamique du métro pour structurer le territoire avec des équipements nouveaux, équipements d'échelle d'agglomération, valoriser les espaces publics en les adaptant aux nouveaux usages et modes de vie. Le tracé de la deuxième ligne de métro reste à l'intérieur de la rocade. Noël Philippe nous explique ce choix.
Le problème de sortir de la rocade pour faire un métro, la question est toujours si on sort du Yaka-Faucon, parce que c'est facile d'être Yaka-Faucon. C'est-à-dire que si on sort de la rocade, ça veut dire qu'on tombe sur des densités qui sont beaucoup plus faibles. Et donc, est-ce qu'un métro on est quand même sur la ligne B aux environs de 90 millions de kilomètres, quand même. Donc est-ce qu'on est capable d'investir 90 millions, voire 200 millions, pour faire 2 kilomètres, 1 kilomètre pour franchir la rocade, et puis 1 kilomètre derrière, pour desservir qui, quoi, quelle densité. Il n'y a pas une commune de plus de 10 000 habitants à l'extérieur de la rocade qui puisse être desservie. Et donc, est-ce qu'une commune de 10 000 habitants mérite qu'on fasse 2 km de métro de façon très lourde? Donc, il me dit, oui, mais il y a les parcs relais. Ah oui, mais les parcs relais, c'est pareil. Un parc relais, sur la ligne A, la station la moins fréquentée, c'était la station Jacques Cartier, à peu près égalité avec Anatole France, qui était aux alentours de 7 à 8 000, au moins dans les premiers temps, ça a dû augmenter depuis, ouais. 7 à 8 000 voyageurs par jour. Pour avoir un parc relais qui aboutisse à la même fréquentation que la station la plus faiblement fréquentée de la ligne A, pour faire un parc relais d'une capacité suffisante pour aboutir au même niveau de fréquentation, il fallait un parking relais d'à peu près 3500 à 4000 places. C'est-à-dire deux fois plus grand que les parkings de supermarché. Donc je ne sais pas si quelqu'un aurait accepté ce genre de choses, avec tous les problèmes de surveillance que ça pouvait poser, dans un parking perdu dans la nature, ou alors à proximité d'habitations. Il y a un moment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Donc avoir un parking, sortir de la rocade juste pour faire un parking, ça n'est économiquement un non-sens. Et c'est en plus, c'est encourager les gens à dire « je prends ma voiture, mais j'utilise les transports collectifs parce que je vais avec ma voiture au métro ». C'est quand même, on peut en discuter du sujet. Nous, on a toujours considéré avec des élus qu'un parking relais était un élément nécessaire d'un réseau de transport, mais n'en était pas un élément au cœur.
Dans ce long processus de décision et de construction de la seconde ligne du métro rennais, il y a eu des imprévus, et parmi ceux-ci, une loi en 2005 concernant la sécurité des stations et de leurs sorties.
On a fait l'étude de Sainte-Anne avant que les textes se changent sur la sécurité, et puis on a mis ça dans la mécanique, on sait faire une station à Sainte-Anne, quoi. Et à partir du moment où on sait faire une station à Sainte-Anne, et ben, toute la mécanique s'est mise en route, et nous on avait fait l'étude dans les anciens textes. Et en 2007, quand les élus ont pris la décision, honnêtement, nous, on ne s'était pas repenché dans les textes des stations. On s'est aperçu un peu après que les textes avaient changé sur les stations et que donc notre étude n'était pas tout à fait juste, quoi. Mais à partir du moment où, aussi en 2007, la nécessité d'avoir une double correspondance était quasiment évidente, donc de toute façon, il fallait faire avec, quoi. Ce qui s'est passé après pour l'étude de la station Sainte-Anne, c'est que ça a juste été un peu plus compliqué, quoi. Entre la façade, entre l'église Saint-Aubin et le bord de la station de métro, il y a un mètre. De ce mètre-là, d'un côté, vous avez l'église Saint-Aubin qui monte à peu près à 20 mètres. Et de l'autre côté de ce mètre, vous avez la station de métro qui descend à 30 mètres. Donc vous avez une différence de dénivelé là, sur un mètre de largeur de 50 mètres. Ça a été quand même, au niveau construction, ça a été quelque chose de difficile. Et là, on revient à une autre équipe qui est intervenue, puisqu'on a retenu après les maîtres d'œuvre. Et les maîtres d'œuvre, quand ils ont fait ça, chapeau quand même, parce que c'était quand même compliqué, quoi.
Noël Philippe a eu à s'occuper de nombreuses délégations de services publics jusqu'à la fin de sa carrière. Transport, déchets et d'autres qui se sont ajoutés avec le temps. La délégation de services publics étant un contrat par lequel la gestion d'un service public est donc confiée à un délégataire, qu'il soit public ou privé. Chacune d'entre elles a demandé d'imaginer le lien aux habitants de la métropole.
Toutes les délégations de services publics ont leur côté particulier. Les déchets, vous organisez une collecte des déchets et vous organisez un système où vous devez passer dans toutes les rues, voir tout le monde, parce qu'il faut ramasser les poubelles ou ramasser les points de collecte. Les transports, vous organisez un réseau de transport qui dessert l'ensemble de services sans passer forcément dans toutes les rues en détail. Et puis les gens le prennent ou ne le prennent pas, c'est leur choix. Les parkings... En ouvrage, c'est pareil, vous avez les gens, ils viennent pas, c'est de leur choix, mais en même temps, ça participe de façon très importante, moins que les transports, mais de façon très importante, on a une politique de mobilité, donc c'est pas rien non plus. Quand vous prenez le chauffage urbain, ben c'est en lien avec les déchets, parce que vous récupérez les chaleurs des usines, ou bien vous avez des chaufferies particulières, et puis vous devez distribuer ça, et puis c'est quoi le tarif là ? Parce qu'actuellement, quand on parle beaucoup de prix d'énergie, dans une délégation de service public, est-ce que la collectivité, qu'est-ce qu'elle doit prendre comme impact par rapport au tarif ? Est-ce qu'elle doit participer à la non-hausse des coûts ou à la non-baisse ? Enfin, c'est toujours des sujets extrêmement différents, extrêmement particuliers. Et puis j'avais aussi le crématorium. Donc les crématoriums, c'était encore une autre délégation de service public. C'était encore autre chose. Quoi. Donc, c'était... Et à chaque fois, c'est des sujets intéressants. Moi, j'adorais ça, négocier une délégation de service public.
Noël Philippe a accompagné la bascule du district vers la métropole rennaise qui s'est opérée en 2015. Témoin privilégié de la montée en puissance et en compétences de cet établissement public, il a participé, à sa manière, à mettre en œuvre des politiques publiques impactant toujours plus le quotidien des habitants.
Les politiques publiques leur ont changé la vie par les transports. Je pense qu'aujourd'hui, les transports ont pris une place qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans. Les déchets, il y a eu les collectes sélectives, il y a beaucoup de choses qui changent, même si j'ai toujours dit que les gens des services avaient une action directe du terrain, parce que c'est beaucoup de proximité, les déchets. Et les gens des services, ils avaient une capacité de faire et une autonomie importante pour bien le faire. Voilà, donc moi je me contentais presque de dire ouais, vous avez bien travaillé, c'est bien. Non, je caricature un tout petit peu, mais c'était quand même ça. Et puis, donc de là à dire par rapport aux gens, non, j'ai permis la mise en œuvre de politiques publiques décidées par les élus. J'y ai pris toute ma part, je pense avoir pris ma part, mais ça reste des décisions politiques d'élus. Il faut que ça reste comme ça.
C'était Rennes, j'écoute les voix du service public, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour les archives de Rennes avec une musique de Robert Meunier.